Voilà.
Quelle ne fut pas ma surprise, le 18 janvier, de lire dans la presse qu'à 12h30, la police avait reçu une alerte à la bombe. Cette alerte visait des bâtiments du registre tchèque des quotas de COD. Durant l'évacuation des bâtiments, qui a duré 3 heures, les cybercriminels se sont emparés du bâtiment ainsi que de 1,3 million de quotas. Le modus operandi était simple. Les criminels ont rapidement neutralisé le système informatique, se sont introduits dans les registres nationaux et ont tout simplement vendu 1,3 million de quotas sur la bourse qui était en vigueur à ce moment-là. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce que cette affaire, on parle de registre, on parle de quota, on parle de cybercriminel, dans quel monde vivons-nous? Qu'est-ce que cette histoire, qui est un fait réel, qui est sans doute digne d'un film du type Ocean Eleven, a pu être possible il y a quelques semaines? Eh bien, l'explication de ce vol, l'explication des bases théoriques, des bases pratiques de ce vol, feront l'objet de cette petite exposée qui durera 1 heure. À cet égard, j'ai identifié au moins 3 objectifs que j'aimerais bien vous faire partager. Le premier objectif de ce cours, c'est de prolonger ce que Benoît Friedman vous a expliqué la semaine dernière par rapport à l'histoire des idées, l'histoire de Dales, les relations internationales, comment l'Europe est passée finalement d'un rôle très attentiste à un rôle de véritable chef de file en termes de système de quotas et de lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième objectif, c'est vous présenter une politique communautaire atypique et hautement intéressante, quoique légèrement typique. Et le troisième objectif sera plus une réflexion de théorie du droit par rapport à ce nouvel instrument de régulation qu'est le marché européen du carbone. Alors, je vous rappelle, ce petit slide d'introduction est en fait un slide qui a pour mission de vous introduire dans le contexte. Lutter contre la pollution, lutter contre les méfaits environnementaux n'est pas une chose neuve. Un certain nombre de conventions internationales avaient tenté de réglementer l'un ou l'autre de ces aspects. Il y avait la Convention de Genève, déjà en 1979, la Convention de Vienne, ensuite le protocole de Montréal qui avait pour but... Vous vous souvenez de cette histoire, enfin, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi je m'en souviens quand j'étais petit, du fameux trou dans la couche d'ozone qui avait vraiment alarmé un grand nombre de personnes. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous dire que ce trou est désormais résorbé, en grande partie grâce à ce protocole de Montréal qui fut véritablement une réussite. Et puis ensuite, Benoît Friedman vous a expliqué la Convention de Rio, ces négociations qui avaient débouché sur le protocole de Kyoto en 1997. Ce protocole de Kyoto, pour rappel et brièvement, il y avait un objectif. L'objectif, c'est de dire, voilà, en 1990, il y avait autant de gaz à effet de serre, nous désirons faire un effort, et les différentes parties, de manière différenciée et selon leurs possibilités, vont essayer de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre à raison d'un certain pourcentage en fonction des États les plus polluants. Et ce pourcentage était différent en fonction des différents États. Pour que cet accord politique soit possible, il a fallu lâcher du lest. Il a fallu trouver des mécanismes dits de flexibilité pour qu'un certain nombre d'États acceptent de signer ce protocole de Kyoto. Donc on n'est pas dans le traité international qui établit de manière autoritaire, tac, un pourcentage et tout le monde se range. Non. La plupart des États n'étaient pas très, très, très partants, et donc on a essayé d'écouter leurs demandes, leurs peurs, et on a essayé de répondre à leurs peurs à travers un certain nombre de mécanismes. Et on a dit, bon, ok, on se met d'accord sur un objectif de réduction, mais vous n'êtes pas obligé de faire l'entièreté de cette réduction à travers une politique, à travers votre politique intérieure. Bonjour, madame.
Bonjour.
À cet égard, on avait mis en place 3 mécanismes de flexibilité. Le premier, SQE, c'est un système de quotas échangeables, ce qui veut dire tout simplement qu'un État qui a pour but de réduire de 10% ses gaz à effet de serre reçoit un nombre de quotas correspondant à cet objectif et il peut, s'il arrive en fin de période trop court, s'il n'a pas assez de quotas à rendre à la fin de la période, il peut l'en acheter chez ses voisins, chez les autres signataires du protocole de Kyoto, et à ce moment-là, remplir ses obligations international grâce, en fait, à des achats faits auprès d'autres États également signataires. Donc ça, c'est quand même une innovation, le système de quotas échangeables. Le deuxième mécanisme dit de flexibilité, c'est la mise en œuvre conjointe. Donc c'est également un système de collaboration internationale qui, là, est bien limité à un périmètre de pays industrialisés. C'est-à-dire que c'est entre les pays industrialisés signataires du protocole de Kyoto qui sont inscrits, je me trompe toujours si c'est à l'annexe A, B ou à l'annexe 1, mais en fonction d'un certain nombre d'États industrialisés, principalement l'Union européenne, un certain nombre de pays de l'ex-URSS et le Japon et quelques autres pays industrialisés, eh bien, on peut dire, voilà, la Belgique n'a pas assez de quotas, elle décide d'aller créer un champ d'éoliennes en Ukraine. L'Ukraine, qui est un pays qui est industrialisé, eh bien, l'Ukraine va lui donner en contrepartie un certain nombre de quotas, et donc la Belgique aura ses quotas à la fin de la période pour pouvoir remplir ses obligations. Donc là, si vous voulez, on reste un petit peu en vase clos, c'est-à-dire qu'on reste entre pays signataires ayant des contraintes de quotas à rendre à la fin de la période, et on se les échange relativement librement en fonction de projets, évidemment de projets qui ont pour but de ne pas donner trop de gaz à effet de serre. Le troisième mécanisme est plus atypique. Il est plus atypique dans la mesure où, à ce moment-là, on ne se trouve plus entre des pays qui ont signé le protocole de Kyoto et qui ont des obligations chiffrées de réduction, mais on se trouve entre des pays industrialisés et des pays en développement. Ces pays en développement, eux, ils ne sont pas soumis à des contraintes de chiffres, de remise de quotas. Et donc, c'est l'idée de la Belgique, de nouveau, qui n'aurait toujours pas assez de quotas malgré les deux premiers mécanismes, qui décide à ce moment-là de faire un accord de coopération, en quelque sorte, avec un pays en développement, disons la Chine, disons l'Éthiopie, et de, une fois de plus, créer un champ d'éoliennes en Éthiopie. À ce moment-là, l'ONU avalise le projet pour voir que c'est un projet bien sérieux. Et si ce projet est sérieux, à ce moment-là, la Belgique reçoit un nombre de quotas qu'il pourra également employer à la fin de sa période. Est-ce que ces trois mécanismes sont clairs ? Vous voyez bien la différence entre États, logique de marché toute simple. La deuxième, on crée des projets, mais également entre États industrialisés. La troisième, c'est plutôt un mécanisme de développement visant à promouvoir les énergies propres dans les pays les moins développés. Le deuxième rappel, le deuxième et dernier rappel que je voulais faire dans cette introduction, c'est cette fameuse évolution de la position des Européens. Donc les Européens, pour rappel, ils n'étaient pas préparés. La diplomatie européenne était balbutiante, ils n'avaient pas une idée claire du système qu'ils voulaient imposer, qu'ils voulaient défendre, en tout cas au sein de l'ONU, et donc c'est finalement les Français qui ont été les premiers à proposer un système d'une taxe. La taxe, et les Français, c'est un système qu'ils connaissent bien. Et cette taxe, les Français voulaient que ce soit une taxe sur le carbone. Ça n'a pas fait l'unanimité. Finalement, les Européens étaient d'accord sur une taxe, mais ils n'étaient pas d'accord sur le type de taxe, puisque les Allemands avaient quant à eux proposé une taxe sur l'énergie et non pas sur le carbone. Pourquoi ? Eh bien, les Français défendaient la taxe sur le carbone parce qu'eux ont beaucoup d'énergie nucléaire, alors que les Allemands ne voyaient pas pourquoi on devait faire une distinction entre l'un et l'autre et proposer une taxe sur l'énergie. Et ça, les Français étaient évidemment beaucoup moins partants. Donc vous voyez, chacun essayait de tirer un petit peu la couverture de son côté, et donc on est arrivé finalement avec une position non claire lors des négociations de Rio et les différentes manifestations internationales qui ont eu lieu. Et donc le résultat, c'est que finalement, on a dû accepter le système proposé par les Américains. Ce système de quotas qui avait été pensé, comme vous vous en souvenez, par John Dales, qui avait été mis en œuvre une première fois aux États-Unis dans leur ordre interne avec les pluies acides. Il y avait donc une certaine expérience, on avait déjà un certain nombre d'écrits doctrinaux sur le sujet. Donc ce système-là, proposé par les Américains, petit peu par petit peu, a fait son chemin et a été accepté par les différentes parties autour de la table lors de Kyoto. Et les Américains n'ont finalement pas signé, et les Européens, quant à eux, ils se sont dit « mais ce système n'est pas si mal, on y voit une belle manière de prendre le leadership mondial sur un sujet ô combien important, et on peut dire de mauvais élèves, ils sont devenus un petit peu les premiers de classe, les Européens, en essayant un petit peu de promouvoir ce système à travers le monde. Et donc, Christian de Pertuis utilisait cette image du suiveur à chef de file pour la diplomatie européenne. Donc, vous voyez, on se trouve là, avec le protocole de Kyoto en 97. On a dû attendre quelques années avant qu'il entre en vigueur parce qu'il y avait des conditions bien précises de droit international public. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait au moins 55% des États qui l'avaient signé, qui le ratifient dans leur ordre interne, et que par ailleurs, ces 55% d'États représentent au moins, si mes souvenirs sont exacts, 55% des émissions de gaz à effet de serre. Une fois que cette double conditionnalité a été remplie, eh bien le protocole de Kyoto est entré en vigueur, avec évidemment les obligations qui en découlent. L'Union européenne, qui avait été évidemment très présente lors des négociations, qui avait suivi ça de près, qui avait vu donc cette fenêtre d'opportunité de devenir finalement un leader, a décidé donc de légiférer, elle en était obligée, mais donc elle a légiféré au moyen de, j'ai dit trois directives, c'est une même directive qui a été modifiée substantiellement deux fois, mais la première directive, la directive de base, c'est la directive de 2003. Elle établit le principe, elle établit le marché européen du carbone, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, les tenants et aboutissants, les grands principes, sans rentrer dans la technicité, de ce marché européen du carbone. Ensuite, très rapidement, l'année d'après, en 2004, l'Union européenne a décidé de lier son marché interne, son marché intérieur, son marché unique, avec finalement les différents mécanismes que je vous ai présentés en introduction, et a fait ce qu'on a appelé la directive liaison, liaison avec les mécanismes de développement propre, liaison avec les mécanismes de mise en œuvre conjointe, donc pour des pays qui sont hors Union européenne, mais qui sont engagés d'une manière ou d'une autre dans le protocole de Kyoto, afin de finalement élargir son marché et créer une fongibilité. Nous y reviendrons, je lance le mot, comme ça c'est un premier jalon. Ensuite, nous allons voir que l'Union européenne avait prévu une période, un peu comme on dit dans les jeux de société, pour du beurre, une période un petit peu d'essai qui n'avait pas beaucoup d'implications, et très rapidement, c'est-à-dire donc en 2008, elle a décidé de changer un certain nombre d'aspects fondamentaux de sa directive pour finalement être plus en phase avec les demandes du marché et pour corriger un certain nombre d'erreurs qui avaient été commises lors de la première directive en 2003. Donc voilà, le cadre général 2003, 2004, 2008, trois directives. Et donc ce système, c'est l'établissement d'un marché européen de quotas de pollution, cap and trade, j'y reviens tout de suite, en vue de faciliter la réalisation des objectifs fixés par Kyoto et par l'UE. Alors cap and trade, donc fixer un cap, c'est fixer finalement un objectif. L'objectif étant 8% de gaz à effet de serre en moins d'ici 2012. C'est ce que l'Union européenne avait accepté de faire lors des négociations internationales, et donc c'est le cap. Et pour arriver à ce cap, eh bien, le système mis en place, c'est qu'on fasse du trade, qu'on fasse du commerce, qu'on se les échange. Voilà pourquoi on appelle ça cap and trade, et c'est une autre manière de faire des normes, de penser le système juridique. En général, dans nos États-nations classiques, on utilise plutôt un système qui est communément appelé de command and control, c'est-à-dire une autorité publique qui décide d'un objectif, qui dit aux entreprises, vous polluez moins à raison de 30%, et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien à ce moment-là, vous aurez des contrôles et vous devrez payer le cas échéant des amendes. Ça, c'est une manière assez classique de faire du droit. Là, vous voyez, c'est un système un petit peu plus flexible, un peu plus basé sur les attentes des différentes parties prenantes, des différents industriels qui demandaient justement beaucoup de flexibilité. Ce cap de 8% en 2012, c'est ce qui était prévu pour Kyoto. Et donc toujours selon cette logique de première classe, l'Union européenne a dit, écoutez, même si les négociations internationales post-Kyoto échouent, nous désirons quand même nous engager pour une période ultérieure à 2012. Le protocole de Kyoto se terminant en 2012, je vous le rappelle. Et nous nous engageons, nous, Union européenne, à réduire à raison de 20% nos gaz à effet de serre d'ici 2020. Boum ! C'était en fait une manière, un petit peu l'effet d'entraînement. On montre qu'on est prêt à le faire en espérant qu'un certain nombre de partenaires suivront le mouvement. Donc, si l'Europe le fait, eh bien, inscrivons-nous dans son sillage. Et actuellement, on discute déjà de nouvelles propositions pour la période postérieure à 2020, parce qu'on se doute bien que le réchauffement climatique ne va pas s'arrêter soudainement en 2020. Et donc,
Actuellement, la Commission travaille sur d'autres propositions pour arriver à des moins 30% en 2050, j'ai entendu, entre autres. Voilà pour le dispositif légal. Alors, ces directives, elles prévoient trois phases. Comme je vous l'ai dit, une première phase, la phase un petit peu pour voir comment ça fonctionne, puisque c'est un nouveau système, puisque c'est un nouvel instrument juridique, c'est un nouveau marché. Elle a prévu cette phase de 2005 à 2007, que j'ai appelée avec un humour certain le tour de chauffe, de deux, trois ans, pour voir comment ça fonctionne. On y reviendra, on va voir quelles ont été les forces et les faiblesses de ce système. Ensuite, la deuxième période, elle, c'est la période qui est la période de droit international, c'est la période qui était prévue par le protocole de Kyoto et qui s'étale de 2008 à 2012. Donc, et la troisième et dernière période, comme je vous l'ai dit, puisqu'on a déjà pris des engagements pour 2020, eh bien, c'est une période de 8 ans. Donc, vous remarquerez que les périodes deviennent de plus en plus longues. Et ce que j'ai mis entre parenthèses à droite, c'est pour déjà vous donner cette idée, c'est que au départ, pour la période de chaud, forcément, c'était gratuit. On a donné les quotas gratuitement. C'est un petit peu la première, comme si vous jouez au poker. Pour la première fois que vous jouez au poker, on vous dit, bon, voilà, on fait 3-4 tours entre nous, on donne l'argent, si tu perds, c'est pas grave. C'est un petit peu ça. La deuxième, en fait, pour la deuxième période, c'est un système qui est à cheval entre la gratuité. On donne certains quotas gratuitement, mais il y a quand même un système de vente aux enchères qui est prévu. Et donc là, c'est plus vraiment pour rigoler, là, ça commence à coûter vraiment. Et pour la troisième période, ce sera un système qui sera uniquement basé sur la vente aux enchères. C'est-à-dire que les quotas ne seront plus donnés par l'autorité publique aux entreprises gratuitement, mais les entreprises devront se manifester et aller acheter au fur et à mesure des années des quotas pour pouvoir répondre à leurs obligations européennes. Alors, en quoi ce marché européen est-il spécifique? En quoi se différencie-t-il de ce qui avait été signé à Kyoto? La première chose, c'est l'idée qu'on a créé une bulle européenne. La bulle européenne, en fait, c'est la conséquence du marché unique. L'Union européenne est composée de 27 États membres. En termes économiques, c'est un marché intérieur où il n'y a plus de frontières. J'imagine que vous êtes très à l'aise avec ce sujet-là. Mais donc, il aurait été illogique de créer 27 petits marchés des quotas au sein de l'Union européenne, alors que pour tout ce qui est marchandises, services, capitaux et citoyens, c'est un marché unique. Et donc, on a voulu finalement aussi, à ce nouveau marché, créer un marché unique. Et donc, l'Union européenne s'est engagée, comme le protocole de Kyoto le permettait dans une de ses annexes, de dire, voilà, nous, on va répondre à nos obligations collectivement. Donc, ne vous occupez pas de la manière dont nous, en interne, en Europe, on gère la répartition entre la Bulgarie, la France et la Pologne. Ça, ce n'est pas votre problème. Nous, à la fin de la période, fin 2012, on arrivera avec un pourcentage de moins 8% par rapport à 1990. Donc, on a créé vraiment une bulle européenne. La deuxième caractéristique du système européen, c'est que vous l'aurez certainement remarqué, on glisse d'une logique entre États à une logique entre opérateurs économiques. Maintenant, ce ne sont plus les États entre eux qui s'échangent des quotas. La Belgique qui échange avec l'Ukraine, comme j'avais expliqué dans l'introduction, non. Maintenant, ça va être Total qui va échanger avec Arcelor. Donc, en fait, l'Union européenne, avec son système de quotas, a mis comme destinataire de ces directives non plus les États. Les États sont évidemment toujours importants en termes de contrôle et de sanctions. Mais ce sont 12 000 entreprises qui, lors de la directive de 2003, ont été sélectionnées afin d'être destinataires de ce marché européen du carbone. D'accord, ça c'est quand même quelque chose de vraiment très important que vous devez bien avoir à l'esprit. Alors globalement, ce système, sur quoi il repose? Donc on avait parlé la fois dernière, suite à une question d'un étudiant, de monnaie, la nouvelle monnaie, peut-être que j'en discutais avec un collègue, ce serait plus judicieux de parler de titre échangeable. Donc le titre échangeable, c'est ce nouveau concept de quota, donc sorti de nulle part. On va créer des quotas qui sont, tout comme pour le protocole de Kyoto, égaux, les quotas sont égaux, à une tonne de gaz à effet de serre. Donc un quota égale une tonne. Alors comment est-ce qu'on va répartir? Imaginez la commission. La commission, elle voit qu'elle a 12 000, elle doit arriver à un certain chiffre, moins 8% par rapport à 1990. Ça fait quand même un nombre de milliards de tonnes de gaz à effet de serre. eh bien, elle va diviser ces tonnes en quotas et elle doit les distribuer. Pour les distribuer, elle n'a pas une connaissance du tissu économique suffisamment importante. Elle n'a ni les ressources financières ni humaines pour arriver à répartir ça entre toutes les entreprises européennes. Et donc, comme c'est souvent le cas, elle se repose sur les administrations nationales des différents États membres. Et donc, elle va demander aux 27 États membres de rédiger des PNAC, des plans nationaux d'allocation des quotas. Et donc, en fait, les 27 États membres vont devoir rédiger un long document en expliquant que, ben voilà, sur le territoire de la Belgique, on peut dire qu'il y a 300 entreprises qui rentrent dans le champ d'application de la directive. Ces 300 entreprises, nous proposons de lui attribuer autant de quotas selon tel et tel critère. Et donc, on doit vraiment expliquer comment la Belgique va allouer ses quotas. Une fois que ces PNAC ont été rédigés par les différents États membres, la Commission effectue un contrôle pour voir que les critères qui ont été utilisés sont bien des critères qui ne sont pas contraires au traité de Rome, c'est-à-dire en termes de discrimination, en termes d'aide d'État, en termes de droit de la concurrence, finalement toutes ces règles-là restent d'application, et elle va effectuer un contrôle en disant, écoutez, là vous devez rectifier, il faut faire une nouvelle mouture ou pas une nouvelle mouture. Ce débat entre les administrations nationales et l'Union et la Commission a donné lieu à un certain nombre de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, où la Cour de justice a par au moins 3 reprises sanctionné la Commission comme étant un petit peu trop dirigiste. C'est-à-dire que la Commission voulait vraiment essayer d'avoir les mêmes critères pour toute l'Union européenne, et la directive ne donnait pas ce pouvoir à la Commission. Et donc la Cour a dit non, chaque État membre le fait comme elle le veut, et vous ne pouvez pas imposer vos critères. Donc voilà. Le deuxième problème de ces PNAC, c'est que, de nouveau, chaque État membre a essayé de tirer la couverture de son côté et a essayé de dire oh, « Nous, on a un pays industriel, on a vraiment besoin de beaucoup de quotas, donnez-nous un maximum, on en a besoin, mais c'est un truc de fou. » Et la Commission, elle n'avait pas toujours les compétences pour arriver à savoir si c'était vrai ou pas. Et donc, on a eu un problème de surallocation de quotas, parce que chaque État membre a vraiment bien vendu ses projets. Et donc, la Commission, pour en tout cas la première période, a vu qu'ils avaient été trop généreux. Donc, on a des titres échangeables. Ces titres échangeables, maintenant, on sait qui va les recevoir grâce au PNAC. Et comme je vous l'ai dit, ça fera à peu près 12 000 entreprises au sein de l'Union européenne. Alors, pour quand même vérifier un petit peu comment ça se passe, il y a un système de registres. Chaque État membre doit tenir des registres, bien clair, en disant, ben voilà, la Belgique, 300 entreprises. Ces 300 entreprises sont inscrites dans les registres. Et on va maintenant suivre la manière dont les quotas vont être échangés d'une entreprise à l'autre. Chaque État membre ayant des registres, bien entendu, il existe un registre communautaire qui, pour toutes les acquisitions intracommunautaires qui se déroulent, eh bien, vont prendre note et vont suivre pour que chaque quota, pour qu'on puisse suivre finalement la vie d'un quota à travers ce réseau serré de registres. À cet égard, je pointe le fait que la directive européenne de 2003 permettait aux particuliers et aux ONG, donc forcément, de également être titulaire d'une entrée sur ces registres. C'est-à-dire que les ONG peuvent très bien également se lancer sur le marché européen du carbone et acheter des quotas. Évidemment, l'idée des ONG, c'est sans doute pas pour se faire un profit sur le dos du réchauffement climatique, mais c'est l'idée d'acheter des quotas et de demander de les annuler. On peut très bien imaginer que vous achetez une action en bourse, vous pouvez très bien demander que cette action soit donc, c'est pas une action en bourse, en fait. Ça, on peut passer contre à leur public. Bon, mais on peut imaginer. C'est un très mauvais exemple. Mais donc, dans ce cas-ci, on peut très bien en acheter et demander que ce soit annulé. Et donc, c'est une manière, finalement, d'œuvrer pour la lutte contre le réchauffement climatique que de supprimer ça. Alors, avec le centre Perelman de philosophie du droit, on a contacté une bourse parce qu'on voulait en acheter ne fût-ce qu'une pour l'annuler, vous voyez, pour un petit peu faire ça. Et donc j'ai contacté une bourse et je leur ai demandé, ben voilà, j'aimerais bien, j'avais la petite référence de la directive, vous voyez, j'avais fait ça dans les fonds, j'avais fait mon petit super juriste qui s'intéresse à la chose. Et ils m'ont dit, mais il n'y a aucun problème, monsieur, c'est excellent. J'ai dit, très bien, ben voilà, je voudrais acheter un quota. Donc à l'époque, j'en étais à 25 euros. Vous voyez, j'ai investi de ma personne dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils m'ont dit, il y a juste une petite formalité, il faut que vous vous inscriviez. Je dis, c'est tout à fait normal, vous voulez mon adresse email, vous voulez quoi que ce soit. Ils m'ont dit, non, c'est juste qu'on vous demande une petite commission. Bon, allez, allons-y. Et la commission, en tout cas pour la bourse que j'ai contactée, était de 15 000 euros. Donc évidemment, ça a un petit peu calmé ma volonté d'œuvrer pour les générations futures.
Donc j'en ai parlé à mon directeur et actuellement donc on a ouvert un compte en banque. N'hésitez pas à verser un petit peu de... Donc voilà. Donc c'est très beau de prévoir réglementairement la possibilité pour les particuliers de supprimer des quotas. On voit que concrètement c'est très difficile d'y arriver, ou il faut déjà avoir il faut déjà être une ONG avec une certaine superficie du type WWF. Ou ce genre d'association-là, pour avoir 15 000 euros à mettre uniquement pour avoir son nom sur une liste qui permet de faire le premier achat et la première annulation. Alors, bien entendu, tout système mis en place demande un système de vérification et de sanctions, ou sinon, il n'est évidemment pas efficace. Je vous épargne les détails pour la vérification. C'est des vérifications annuelles au niveau des États membres et c'est pour, à la fin de chaque période, fait par la commission, qui elle-même va devoir après rendre des comptes au niveau international. Mais donc l'idée, c'est que si une entreprise n'arrive pas à prouver, à remettre suffisamment de quotas par rapport à sa production, par rapport à sa dépense d'énergie, de gaz à effet de serre, à ce moment-là, eh bien, elle devra payer une amende, qui était pour la première période de 40 euros, pour la seconde période de 100 euros. Mais en plus, ce n'est pas libératoire. C'est-à-dire qu'elle devra quand même acheter, à la période d'après, un quota pour leur donner et pour prouver ça. Donc c'est quand même un système relativement sérieux de sanctions. Est-ce que vous êtes au clair avec cette première photographie, encore peut-être un peu floue, mais avec les premiers jalons, les premiers grands trucs, l'idée donc des quotas, les opérateurs économiques, un système de registre pour bien suivre les choses, et quand même une petite vérification à la fin de la période? Ça vous va? Impeccable. Voilà une excellente nouvelle. Continuons. Donc, dans le système européen, je voudrais bien revenir sur deux points majeurs. C'est l'allocation initiale dans un premier temps et la fongibilité dans un deuxième temps. C'est deux questions qui nous demandent peut-être plus de réfléchir aux choix qui ont été opérés par la Commission dans les différentes directives. Donc l'allocation initiale, je vous en ai parlé, durant la période d'essai, je vous ai dit, c'était gratuit, et que petit peu par petit peu, donc lors de la deuxième période, les États membres avaient le choix de le faire soit gratuit, soit de vente aux enchères, et finalement, pour la période post-2012, eh bien, on était à un système de vente aux enchères à peu près uniformisé. Il y a juste différentes petites exceptions possibles. Alors, la gratuité, ce que Benoît Friedman vous avait évoqué comme « grandfathering », j'ai lu dans un article l'origine du mot grandfathering. Je vous explique, vous savez. Hein. J'ai bien aimé la petite histoire. J'aime toujours bien les petites anecdotes. En fait, ça date, je crois, du 19e siècle aux États-Unis, où, en fait, le système électoral était assez discriminatoire, était même complètement discriminatoire, dans la mesure où il fallait être blanc pour voter, en tout cas dans certains États du Sud. À un moment, sous l'impulsion de la Cour suprême, on a voulu assouplir ce type de système, et donc on a fait un système beaucoup plus généreux, puisque c'est devenu sans ITER. C'est vrai qu'on pouvait... Donc c'était toute personne qui payait l'impôt, qu'il soit blanc ou noir, mais c'était l'idée du sens. Donc, là, on se disait bien, mais certains États du Sud n'étaient pas encore tout à fait contents avec ce système-là, qui, bien que discriminatoire et favorisant évidemment les blancs, ça permettait quand même encore à ce qu'un certain nombre de noirs puissent voter. Et donc, certains États ont mis en place un système de grandfathering qui disait: voilà, toute personne qui paye le sens peut voter, mais également toute personne dont le grand-père votait. Or, à l'époque, forcément, il n'y avait que des grands-pères blancs qui votaient, donc un grand-père noir. Et donc, avec ça, on était sûr de diluer suffisamment la masse d'électeurs noirs pour qu'ils aient une influence assez plus ou moins proche du nul. Et donc, voilà, cette expression de grandfathering, qui a après été dénoncée par la Cour suprême, bien entendu, vient de là. C'est finalement d'octroyer des avantages de par l'histoire, de par les générations présentes. Donc, le fait de donner des quotas gratuits, ça procède un petit peu de la même logique. C'est-à-dire, vous êtes un industriel qui pollue. De par ce fait-là, vous bénéficiez de quotas gratuits. Alors là, évidemment, quand je l'énonce comme ça, ça paraît choquant. On est loin du système de l'adage pollueur-payeur. Dans ce cas-ci, vous êtes pollueur, vous êtes bénéficiaire. Parce que vous polluez, vous avez droit à des quotas. Il y a quelque chose qui n'est pas terrible à derrière. Et pourtant, on comprend, c'est nécessaire de passer, à mon avis, par un système de gratuité, parce que si vous demandez à toutes les entreprises européennes, ou à 12 000 entreprises européennes, de commencer
à payer pour quelque chose qui était légal avant, vous allez avoir une opposition très ferme de la part des lobbies, de la part du monde de l'entreprise, du monde de la finance, en disant non, c'est pas possible, là, il faut trouver une autre solution et tout. En disant, donc pendant une période transitoire, on vous les donne gratuitement, on va voir comment ça marche et tout, finalement, ça permet de faire passer la pilule en fait en toute souplesse et discrètement. Et c'est pour ça que pour la première période, on vous le donne, et les industriels n'ont vraisemblablement pas vu tout de suite venir le fait que la transition serait très rapide, puisque en moins de 7 ans, c'est passé de la gratuité à la vente aux enchères. Donc voilà l'idée de la gratuité. Le système qui est peu à peu mis en place, donc c'est un système de vente aux enchères, comme je vous l'ai dit, post-2012. Donc il faut que vous connaissiez cette expression qui s'appelle double dividende. Un système de vente aux enchères permet de bénéficier d'un double dividende. Double dividende, un dividende d'abord économique, forcément. Si vous achetez aux enchères, l'État, l'autorité publique va recevoir de l'argent et donc va bénéficier d'une masse assez importante de finances qui lui permettront d'investir dans des énergies renouvelables, dans une politique qui soit compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et par ailleurs, évidemment, le deuxième dividende, c'est qu'environnementalement, on va moins dépenser puisque vous n'achèterez sur cette vente aux enchères que ce dont vous avez réellement besoin et vous aurez tendance à évidemment réduire les coûts au maximum. Je ne vais pas plus loin dans les explications parce que la semaine prochaine, Madame Vallée va venir justement nous expliquer les tenants et aboutissants. Elle va apporter une réflexion sur le côté équitable et ou efficace de ces différents systèmes d'allocation initiale. Et donc, ce sera vraiment l'objet de la prochaine séance. Faut-il être pour ou contre les ventes aux enchères? Si oui, pourquoi? Etc. etc. Donc voilà, premier point, l'allocation initiale. Deuxième point, la fongibilité. Fongibilité qu'on peut également qualifier à un terme un petit peu moins barbare de interchangeabilité. C'est peut-être plus parlant. Interchangeabilité, fongibilité. Donc, pour revenir à ma directive de 2003, depuis le départ, le législateur européen a voulu faire une directive évolutive. Une directive qui allait pouvoir rapidement s'adapter à des nouveaux marchés, à des nouveaux gaz, à des nouveaux pays, à des nouveaux... Enfin, pouvoir s'adapter. Et donc, on voit que cette directive a permis de passer d'abord, dans un premier temps, la période de chauffe 2005 à 2007, c'était uniquement pour le dioxyde de carbone. Et puis, lors de la deuxième phase, on a augmenté de 6, je peux me tromper, je crois que c'est 6 ou 7 nouveaux gaz. Et donc, on voit que, maintenant, la lutte contre le réchauffement climatique s'est élargie à 7 gaz, et non plus à un seul. De même, cette directive permet d'évoluer quant aux secteurs qui sont réglementés, qui sont régulés. Par exemple, le secteur de l'aviation, dont on sait qu'il est quand même très important, très dévoreur de carbone, eh bien, va en 2012 être soumis, donc c'est vraiment demain, j'ai envie de dire, va être soumis à ce marché européen du carbone. Alors, il y a quelques adaptations, c'est assez compliqué, mais donc l'idée, c'est que chaque avion qui s'arrête dans un aéroport de l'Union européenne va être soumis au marché. Donc vous imaginez, rares sont les compagnies qui ne font pas un arrêt à Francfort, Londres, Paris, ou bien entendu Zaventem, dans ces lignes. Et donc, ça va être un système qui va être très très répandu, qui va avoir des répercussions mondiales, à mon avis. Donc ça, c'est à partir de 2012. Donc il y a une logique d'élargissement des gaz, une logique d'élargissement des secteurs, mais également une logique d'élargissement des marchés. Alors, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, je vous l'accorde, mais le premier élargissement a été de l'élargir à l'espace économique européen. L'espace économique européen qui, pour rappel, est constitué du Liechtenstein, de Andorre et de la Norvège. Mais c'est l'idée qu'on n'est plus à 27, maintenant on est à 30. Alors c'est vrai que sans doute que la production de gaz à effet de serre d'Andorre n'est pas énorme, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est possible. Alors, on a commencé également des négociations avec le Canada, le Japon, les USA. Je vous explique, on n'en est pas du tout encore à une fongibilité entre ces marchés-là, puisque un certain nombre de ces États ne sont même pas signataires, n'ont pas en tout cas transposé le protocole de Kyoto dans leur ordre interne, en tout cas les USA. Le Japon est signataire. Donc, on essaye actuellement de permettre que les quotas valables au sein de l'Union européenne par ce marché européen du carbone puissent être vendus et achetés sur d'autres marchés et que finalement ce soit la même monnaie, le même titre échangeable, avec toujours évidemment des modalités, des contrôles, les registres devront pouvoir exactement identifier quoi et qu'est-ce, mais l'idée c'est que on crée un grand marché, quoi. On a pour l'instant une mosaïque de plus petits marchés, puisque le protocole de Kyoto a permis à beaucoup d'États d'avoir leur propre marché national, et on voit que l'Union européenne essaye de se connecter à ces différents marchés en imposant un petit peu les lignes directrices et les règles de son marché européen du carbone. Alors, au niveau des États-Unis, il y a un double mouvement. Comme vous le savez, aux États-Unis, il faut toujours être très attentif, à la fois au niveau fédéral, mais également au niveau des entités fédérées qui ont des compétences en termes environnementaux. Et donc, il y a actuellement toute une série de marchés environnementaux qui existent aux États-Unis, soit au niveau de la Californie, soit que les États du Nord-Est. Enfin, il y a toute une série de choses. La Commission est en contact avec eux. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait une initiative fédérale pour créer un marché fédéral américain du carbone. Elle était passée à la Chambre et je pense qu'elle a été recalée au Sénat. Et donc, cette initiative législative est désormais morte. Et donc, le salut, finalement, du marché européen du carbone passera, à mon avis, par les entités fédérées et non pas par le niveau fédéral, en tout cas dans les années à venir. À cet égard, la Californie joue un rôle tout à fait moteur de lutte contre justement le réchauffement climatique et veulent aller de l'avant. Et donc, c'est assez sympa de voir comment on contourne les États-nations, le gouvernement fédéral à travers ces autorités locales ou fédérées. Quand je parlais d'élargissement des marchés, je parlais aussi de l'élargissement qui était prévu tout simplement par la directive 2004 liaison, puisque maintenant le marché européen est en lien avec les MOC et les MDP. C'est également une manière d'élargir son marché. Donc vous voyez un petit peu la manière dont ça fonctionne. Selon une bonne vieille règle d'économie qui veut qu'au plus le marché est grand, au mieux c'est. Au plus on évite beaucoup de problèmes parce qu'un marché trop petit risque de rapidement avoir de gros problèmes en termes par exemple de liquidité ou de collusion. La fongibilité, donc là je reviens sur la directive liaison, MOC et MDP. Donc effectivement, la Belgique, la France, le Luxembourg peut acheter des quotas par le système de mise en œuvre conjointe, vous voyez, en fait industrialisé, ou via les mécanismes de développement propre avec les pays. Mais l'Union européenne est très stricte là-dessus. Elle a dit, c'est pas une manière de vous dédouaner, vous, États membres, de vos propres responsabilités. C'est-à-dire que ces achats de quotas ne peuvent être que accessoires, subsidiaires. La Belgique ne peut pas dire « moi je ne fais rien et j'achète tout à la Somalie et comme ça je suis en ordre ». Non, pas du tout. Chaque État a dû négocier un à un pourcentage bien précis, un pourcentage maximal d'utilisation des MOC et des MDP afin de remplir ses obligations européennes. Donc ces systèmes-là, bien qu'ils existent, restent relativement mineurs. La plus grande partie, c'est bien le marché européen du carbone qui est mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne. Donc ça, je voulais absolument attirer votre attention là-dessus. Et à ce stade-ci, je jette une première bouée, vous verrez plus tard pourquoi, sur la question réglementaire de la bancabilité. La bancabilité est un terme technique qui vise à expliquer le report d'une période à l'autre. Vous avez vu, on a trois périodes pour l'instant. Est-ce que les quotas gratuits reçus en 2005 pourront être utilisés en 2012 ou en 2020 afin de remplir ces obligations réglementaires? Est-ce qu'on peut le garder, le thésauriser et l'utiliser quand on veut? Eh bien, oui et non. Ça a été non pour la première période, puisque les quotas étaient gratuits, on a dit qu'on ne pouvait pas le reporter par après. En revanche, pour la deuxième période, c'était possible, on y reviendra. Et pour la troisième période, si mes souvenirs sont exacts, c'est tout à fait permis allègrement. Ma montre s'est arrêtée, est-ce que vous pouvez me donner l'heure? 52, je crois comme le temps passe vite. Hein. 50, on a commencé à 15, hein, donc j'ai un petit peu de marge encore. J'ai des gros problèmes informatiques aussi. Donc voilà, donc conclusion de la partie 1. Je vais assez vite, je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Donc vous avez vu le glissement de la logique de droit international public vers une logique de marché commun, de marché unique. C'est bien clair pour tout le monde? Merveilleux. Deuxième chose, deuxième conclusion, c'est un instrument juridique novateur parce qu'on peut identifier un certain nombre de pour utiliser une expression chère au Centre de philosophie du droit, d'OGNI, le quota. Qu'est-ce qu'un quota? C'est une marchandise, c'est un service. Est-ce que, en fonction du statut juridique qu'on lui donne, eh bien, les règles de l'OMC sont également différentes? La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est très différente en libre circulation des services ou des marchandises. Donc ça, c'est chaque État membre qui règle dans son ordre national le statut qu'il a donné au quota. Ce qui est la spécificité également, c'est le cap and trade. Hein, donc on part de cette logique de command and control vers cap and trade. C'est une des premières applications de cette manière de faire le droit. On peut voir aussi que c'est un système évolutif. On a vu les trois périodes, la période d'essai, deuxième période, troisième période, la fongibilité qui va vers toujours un plus grand nombre de marchés. Donc c'est très évolutif. Et l'allocation initiale qui est passée de la gratuité à la vente aux enchères. Enfin, je ne vous cache pas, moi j'adore le droit de l'Union européenne, hein, c'est ma spécialité, et donc je prends un petit peu de recul et je vois qu'en fait la stratégie, à mon avis, de la Commission, elle était de dire, si on veut faire un marché unique du carbone, eh bien, sortons le débat du cadre purement politique des 27 États membres et des 27 ministres de l'Environnement, et donnons tout au marché, ou un maximum au marché, sachant très bien qu'en fait, le marché, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des règles claires, qui sont les mêmes dans les 27 États membres. Qu'il achète son quota à Copenhague ou à la Villette à Malte, il veut que ce soit la même règle. Et il savait très bien qu'en donnant un maximum de pouvoir au marché, ça allait créer, à rebours, en quelque sorte, une européanisation de fait. Parce que ça devient difficile pour un gouvernement national d'aller à l'encontre de l'avis unanime de tout le marché en disant... Et donc, je pense que là, il y a réellement une stratégie, c'est une harmonisation par le marché, donc une harmonisation des droits européens par le marché. Ça, c'est mon avis, bien sûr, totalement discutable. N'hésitez pas à le discuter, j'adore ça. Mais donc, je crois qu'il y a vraiment cette volonté-là de la part de la Commission. Et ça, je vous l'en ai déjà parlé, le statut du quota qui reste problématique et qui est discuté actuellement. Pour essayer de l'uniformiser, et il y a différentes affaires pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne. Deuxième partie, il n'y en aura que deux, je vous rassure. La deuxième partie, c'est la financiarisation de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà, moi je vous ai décrit les directives. Et les directives, elles ne disent pas plus que ce que je vous ai présenté en fait. Elle ne parle pas de comment le quota il va concrètement passer d'une entreprise à l'autre. Elle ne donne pas plus. Et donc, les directives, on sent bien qu'elles créent un nouveau marché puisqu'elles créent tous ces quotas et qu'il dit qu'on peut se les échanger et qu'il y a des registres. Elle fait comme destinataire 12 000 entreprises qui, rappelons-le, sont principalement des cimenteries, des gens qui produisent du pétrole, tout ça. Ce n'est vraiment pas des financiers, ce n'est pas des entreprises financières, c'est vraiment des entreprises économique au sens premier du terme, et donc le destinataire, c'est un acteur non professionnel des logiques de la logique de la finance. En même temps, comme je vous le dis, les directives ne créent pas de cadre juridique pour le système d'échange, donc on peut imaginer qu'on peut s'échanger le quota de gré à gré, d'un service juridique à l'autre, on pourrait imaginer une société, on pourrait imaginer qu'on demande à un courtier de faire donc l'intermédiaire entre deux sociétés, que les banques pourraient faire ça, qu'on peut créer des bourses. Et donc, le deuxième partie, point A, c'est justement la naissance de ces intermédiaires financiers. Du fait du vide du cadre légal sur ce point-là, eh bien, le marché financier cette fois-ci, a vu une fenêtre d'opportunité merveilleuse et a décidé de créer toute une série, pas a décidé de créer, mais a élargi en général son offre de services aux spécificités du marché européen du carbone. Et donc, pour aller relativement rapidement, eh bien, on a bien entendu des courtiers qui sont proposés pour aider les entreprises. Voilà, ça ne demande pas beaucoup de commentaires, ça me paraît finalement assez logique. Ce qui est par contre beaucoup plus intéressant, c'est que des bourses dédiées uniquement à l'échange du quota ont vu le jour. Alors là, actuellement, il y en a 6, il y en a eu plus. Elles ont été achetées, rachetées, par un certain nombre de grands groupes, principalement américains, puisque parmi ces 6 bourses, la principale est entre les mains de la New York Stock Exchange. Donc on voit que les Américains, n'étant, à cause de raisons politiques, n'étant pas sur le marché européen du carbone ou n'étant pas impliqués, sur le marché européen du carbone, essayent de contourner leur blocage politique à travers le rachat de la principale bourse d'échange européenne. Donc, bourses spécialisées, il y en a 6. Ces bourses du carbone, eh bien, elles sont appréciées et 80% des échanges de quotas se font désormais sur ces bourses européennes du carbone. Pourquoi ? Ben parce que c'est plus rapide. Imaginez, vous devez échanger un quota. Si vous devez commencer à téléphoner à 10 entreprises pour leur demander, vous dites si ça vous arrange bien de vendre quelques quotas, oui, non, à quel prix ? Vous voyez, c'est un petit peu lourd pour les entreprises. Par ailleurs, ben, les bourses, elles bénéficient quand même d'une longue histoire. Elles savent comment faire une transaction de manière sécurisée. Et également, les coûts, ben, les coûts ils sont clairs. C'est-à-dire qu'on sait combien ça coûte de faire une transaction, c'est peut-être un pourcentage, c'est peut-être quelques euros. Donc, en termes de coûts, c'est mieux contrôler ce que, évidemment, les acteurs économiques aiment beaucoup. Donc, les bourses présentaient finalement l'avantage du professionnalisme et d'une histoire. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en plus de ce grand nombre de bourses, qui quand même, puisqu'à un moment, il y en a eu 9, puis elles ont été rachetées, mais donc il y a quelques bourses qui ont pullulé au sein du marché unique, on voit également que les produits se sont diversifiés. C'est-à-dire qu'on n'en est pas resté uniquement aux quotas. Mais alors, on a eu des quotas secondaires, des swaps, des options sur les quotas. On a vraiment eu tout ce que la finance offre comme produits dérivés qui se sont appliqués désormais à ce nouveau titre, aux quotas. Et donc, vous avez maintenant des marchés de swaps de quotas et tout ça. Donc, vraiment, vous sentez ce mouvement de financiarisation à travers les différents marchés existants. De même, les modalités de vente, eh bien, évidemment, ça s'applique assez bien au quota, mais il y a des ventes spot, c'est-à-dire des ventes au comptant, des ventes directes. Mais la grande partie des ventes se font dans le futur. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous devez remettre des quotas dans, par exemple, 6 mois auprès de l'autorité publique. Eh bien, vous voyez que le prix des quotas n'est pas cher maintenant. Hop, vous l'achetez pour dans 6 mois. C'est le marché des futurs. Et donc, on voit également que, outre l'offre des produits, également les modalités de vente se sont diversifiées. Donc, les bourses ont été vraiment un intermédiaire financier, et sont des intermédiaires financiers privilégiés, et les acteurs principaux, à mon avis. Alors, il y a également une troisième catégorie d'acteurs financiers, qui sont les monteurs de projets Kyoto. Donc, les projets Kyoto, ce sont ce que j'appelle les MDP, les mécanismes de développement propre. Donc, vu cette possibilité prévue par Kyoto et vu la directive liaison qui a été prise donc, en 2004, eh bien, il y a des gens qui se sont dit, eh bien, on va aider les entreprises à bénéficier de ces quotas supplémentaires. Vous avez une entreprise, vous avez une cimenterie. Il n'est pas facile pour vous de penser comment créer un champ d'éoliennes en Éthiopie. Ce n'est pas dans votre objet social, ce n'est pas dans vos compétences. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été trouver des entreprises soumises au marché européen du carbone. Ils leur ont dit, écoutez, si vous nous donnez un peu d'argent, nous on récolte l'argent et on va vous développer un champ d'éoliennes qui va vous permettre de récolter autant de milliers de quotas. Et donc on a vraiment ici un intermédiaire qui, lui, dont l'objet social sera vraiment de créer des mécanismes de développement propre, ce qui me paraît assez normal. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on voit maintenant avec les quelques années de recul que je crois aussi que plus de 80% des projets ne sont pas dans l'Afrique subsaharienne ou dans les pays qui sont sans doute les moins développés, mais se concentrent principalement sur la Chine, l'Inde et peut-être un petit peu le Brésil et la Russie. Quoique la Russie ne fait pas partie de ça, donc c'est une erreur de mettre brique. Mais bon, en tout cas, l'Inde et la Chine sont vraiment les principaux destinataires de ces projets de mécanismes de développement propre. Et donc là, on rate un peu le coche parce que finalement, les mécanismes de flexibilité prévus par Kyoto voulaient que ce soit les pays les plus pauvres qui bénéficient de ces choses-là. Et on voit que la Chine, dont le statut de pays en développement est quand même très contestable et contesté, voit tout à coup que tout cet argent arrivé de la part des Européens et tout. Et donc là, il y a évidemment quelques problèmes. Mais soit, l'idée, c'est qu'il y a des intermédiaires, des monteurs de projets Kyoto. On a également pu lire dans la presse, et ça ne vous aura pas échappé, qu'un certain nombre de ces projets étaient de vastes blagues, et il a été dénoncé que, en fait, ce n'étaient pas des vrais projets, et que les quotas ont été attribués, alors qu'il n'y avait pas du tout ce champ d'éoliennes ou ces choses-là. Donc, vu les distances, vu le côté transnational, vu la difficulté des contrôles aussi dans un certain nombre d'États, il faut bien se dire, c'est pas facile, eh bien, il y a eu de l'abus, et d'aucuns n'hésitent pas à remettre en cause le bien fondé de ces projets. Je continue. Quatrième et dernier intermédiaire financier, les fonds d'investissement. Alors, les fonds d'investissement, est-ce que vous voyez ce que c'est un fonds d'investissement ? Voilà, vu l'enthousiasme, j'imagine que non. Donc vraiment, un fonds d'investissement, c'est un instrument juridique qui a pour but de récolter un maximum d'argent, de lever un maximum de fonds, et dont l'objet social est uniquement de faire du profit, au départ. C'est l'idée que un petit investisseur, il n'a pas assez d'argent pour pouvoir gagner beaucoup d'argent en bourse ou de faire des grands projets. À ce moment-là, on va demander à des centaines ou des milliers d'investisseurs de mettre leurs petites économies. Et là, on aura quelques milliards d'euros qui permettront de réellement pouvoir peser sur le marché et de pouvoir réellement faire une politique financière agressive. Donc, le fonds d'investissement, au départ, c'est le profit qui est au cœur du projet. C'est un instrument financier pur. Dans un premier temps, ces fonds d'investissement, cette structure juridique, ont été utilisés pour les États qui ont voulu être actifs, justement, dans les marchés internationaux ou européens du carbone pour créer des projets Kyoto. Donc, dans un premier temps, on a utilisé les fonds d'investissement pour pouvoir se lancer sur le marché. Très rapidement, ces fonds d'investissement n'ont plus été gouvernementaux, sont passés à des fonds publics privés, et maintenant, la majorité, l'énorme majorité de ces fonds d'investissement sont des fonds purement privés. Et donc, vous pouvez très bien aller dans votre banque, acheter un titre d'un fonds d'investissement qui est Kyoto Compliant, je ne sais pas comment ils appellent ça, ou l'investissement éthiquement responsable, et donc, eh bien, ce fonds, il sera actif sur le marché européen du carbone en achetant des quotas au moment où il est le plus bas, en le revendant au moment où il est le plus haut. Et il va également, dans sa politique d'investissement, dire qu'il investit dans des projets en Chine, en Éthiopie et en Somalie. Et donc vraiment, j'utilise cet exemple-là pour vous dire combien on est loin de la politique environnementale voulue au départ, quoi. En soi, c'est devenu un produit financier comme un autre. Selon les chiffres que j'ai récoltés en 2008, il y a 67 fonds d'investissement qui existaient et qui géraient déjà 10 milliards d'euros. Et ça a énormément augmenté. Mais je n'étais pas sûr du chiffre de 2010 parce que j'avais des sources qui n'étaient pas concordantes. Mais on serait à plus du double ou du triple de ça actuellement. Donc on est quand même à des... C'est plus pour rire, quoi. C'est vraiment des chiffres énormes. Le cours de bourse. Ah. Voilà, une suspension du cours de bourse et donc il y a eu ce petit... Voilà, j'ai repris ce petit schéma d'une des bourses européennes du carbone. Et donc vous voyez l'évolution du cours de bourse depuis 2005 jusqu'à ici fin 2010. Voilà, ainsi que là, le volume d'échange. Vous ne vous attendiez sans doute pas à avoir un cours de bourse au sein pendant ce cours-là. Eh bien, je pense que c'est indispensable que vous compreniez bien les fluctuations que ce cours a connues. Alors, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi on voit que le chiffre, que la valeur du quota était proche de zéro ici à cette période-là ? Pardon ? Crise financière, fin 2007, c'est un peu tôt. Offre supérieure à la demande, ouais, largement supérieure à la demande. Ah, monsieur.
C'est pas le changement de classe. Quand on a passé de la première, il y avait les quotas gratuits. On passe à la deuxième phase et comment on peut pas reprendre.
Vous me redonnez le sourire aux lèvres, monsieur. Effectivement, c'est la question de la bancabilité. Si vous avez des quotas qui ne sont valables que jusque fin 2007, le 1er janvier 2008 pour la deuxième phase, comme l'a très bien dit monsieur, ça ne vaut plus rien. Vous pouvez le mettre à la poubelle. Et si ça ne vaut plus rien, bien, au plus on se rapproche de ce moment où le quota ne vaut plus rien, au moins sa valeur sera importante. C'est clair pour vous ? C'est normal, vous ne pourrez plus l'échanger. Et donc ça explique pourquoi ici à un moment ça a été proche de zéro et puis que c'est reparti vers le haut. Deuxième moment important du quota, de ce cours, c'est vous voyez là aux alentours de mars 2006, je crois que c'est le 1er avril 2006, que le quota qui valait 28 euros est tout à coup descendu
à une dizaine d'euros. Eh bien, nous allons voir pourquoi. Il y a toute une série de raisons qui ont poussé, mais principalement, disons-le déjà maintenant, comme ça on avance, je vois l'heure qui avance, effectivement. Nouveau marché. On ne sait pas bien à quoi s'en tenir. Les informations étaient parcellaires. La commission était encore en train de se débattre avec un certain nombre de PNAC, plans nationaux d'allocation des quotas. Et en fait, le 1er avril est le moment de la publication des résultats des quotas, d'avoir une photographie un peu plus claire du nombre de quotas sur le marché, de ce qui allait avoir besoin. Et tout à coup, le marché a reçu beaucoup d'informations et les acteurs de ce marché se sont rendus compte que les fameux PNAC dont je vous avais parlé tout à l'heure avaient été trop généreux. Et que donc, et là c'est un critère que vous avez avancé monsieur, c'est qu'il y avait trop de quotas sur le marché. Eh bien, c'est pas compliqué, quand il y a trop d'offres, et pas assez de demandes, le coût descend et est descendu quand même assez violemment, puisque quand même de 28 à 10 euros, c'était un grand stress. Et donc finalement ça s'est rétabli. Donc vous voyez, on se trouve vraiment dans une logique de marché, l'information est importante. Pour le reste, les différentes fluctuations, eh bien il y a deux types d'explications par rapport à ces fluctuations. Il y a les facteurs classiques de fluctuations du marché et les facteurs réglementaires. Les facteurs classiques, c'est que bien voilà, le cours de bourse ne reste pas indifférent à la nouvelle qu'un nouveau secteur tel l'aviation arrive et va manger un certain nombre de quotas. Que la ratification du protocole par les USA, par exemple, pourrait être une nouvelle qui va influencer manifestement le cours de bourse. Le fait que la période aille de 2012 à 2020, lorsque le marché a reçu cette information-là, c'est évidemment une information qui était cruciale pour le marché, qui l'a rassuré, puisque le marché a pu se projeter de plusieurs années en avant. Et donc ça, ce sont des facteurs d'information classiques, des facteurs d'information politique. Le taux de croissance économique, bien sûr, on est en crise, on produit moins, donc forcément on a besoin de moins de quotas, et donc le marché va être plus calme. La météo, s'il fait chaud, vous ne devez plus chauffer. Si vous ne devez plus chauffer, vous ne devez plus consommer de gaz à effet de serre. Et donc, vous aurez moins besoin de quotas. Le mouvement du prix entre le gaz et le charbon. J'ai appris, je ne le savais pas il y a quelques temps, qu'en fait, beaucoup d'entreprises gardaient deux systèmes de production. Un système basé sur le gaz et un autre sur le charbon. Et en fonction du prix du gaz et du charbon, ils allument le moteur gaz ou ils allument le moteur charbon. Et donc, le gaz est beaucoup moins polluant que le charbon. Le charbon, c'est encore la bonne vieille entreprise qui pollue bien. Et donc, en fonction de ce prix-là, eh bien, effectivement, on aura plus ou moins besoin de quotas. La publication des résultats, on en a parlé. Et bien entendu, ça, je vous le mets juste pour mémoire, que le prix du quota n'ira jamais plus haut que le prix de la sanction. C'est-à-dire que dans la période 2005 à 2007, le fait de ne pas avoir un quota était par exemple de 40 euros, eh bien le prix ne s'envolera pas plus que 40 euros. Actuellement, c'est 100 euros. Vous pouvez être sûr que le prix du quota ne sera jamais supérieur à ce 100 euros. Deuxième aspect, qualifié ici de réglementaire. Réglementaire, eh bien, vous avez vu, lié à la bancabilité. Si le quota n'est pas thésaurisable pendant une période d'après, eh bien, il vaut zéro et donc le cours s'effondre en fin de période. Bien entendu, deuxième possibilité, l'allocation initiale. Le fait d'avoir des quotas gratuits ou des quotas qui sont mis aux enchères et que éventuellement vous pouvez encore acheter après, eh bien, va influencer largement le prix, puisque ce prix va également prendre en compte, par exemple, ce que vous avez acheté lors de la mise aux enchères initiale. Et également lié à la fongibilité, c'est-à-dire qu'en fonction de l'étendue de votre marché, du fait que vous pouvez ou non le vendre sur des marchés parallèles et tout, et bien tout ça vont avoir des influences sur le prix. N'étant pas économiste, je vous dispense des mauvaises explications que j'ai en tête par rapport à tous ces critères-là. Je ne voudrais pas vous apprendre des choses fausses. Conclusion de la deuxième partie, 11h10. Donc, pour reprendre un petit peu la philosophie de cette réglementation au départ, c'est qu'en théorie, le système prévoit la régulation des choix par les prix sur base d'une quantité fixe déterminée par l'autorité politique. Rappelez-vous ce que Benoît Friedman avait dit. Ben oui, voilà, le système de cap and trade, ben on l'a choisi, il a séduit un certain nombre de personnes parce qu'on était sûr qu'on n'allait pas polluer plus que le nombre de quotas qui sont mis à disposition. On savait qu'on voulait faire, par exemple, moins 10% par rapport à 90%, que ça représentait un nombre de quotas. Eh bien, on savait qu'en tout cas, les entreprises européennes n'allaient pas polluer plus que le nombre de quotas qui étaient disponibles.
Donc, c'était l'idée d'avoir une quantité fixe qui était déterminée par un choix politique. Moins 10%. On a fait moins 15, l'Europe a fait moins 20. Donc, c'est ça qui a séduit dans une certaine mesure. Et puis, qu'est-ce qui se passe en pratique? En pratique, qu'est-ce que je vous ai expliqué? Il y a les acteurs. Ils ont commencé à prendre un petit peu plus d'autonomie et le marché s'est un petit peu emparé de cette politique. Et donc on voit que cette quantité soi-disant fixe, eh bien, elle varie en fonction d'un certain nombre de comportements et en fonction du choix des entreprises. Le choix de l'entreprise, soit d'essayer d'avoir un système de production moins polluant et de revendre ses quotas, ou le choix de l'entreprise qui consiste à dire « moi je m'en fiche, j'achète quand même sur le marché », eh bien, ça va jouer beaucoup sur le nombre de quotas disponibles. Les quotas émis par les États, rappelez-vous, les PNAC. Les États ont essayé de défendre à fond leur industrie nationale et ont mis sur le marché un grand nombre de quotas, un trop grand nombre, puisque le cours s'est d'ailleurs largement affaissé. Les quotas émis par les intermédiaires financiers, dans le cadre des MDP. Je ne résiste pas au plaisir d'attirer votre attention sur le fait que les mécanismes de développement propre, c'est réellement problématique pour le marché. Pourquoi ? On n'est pas dans une logique d'État signataire du protocole de Kyoto ayant des obligations chiffrées où finalement on passe de l'un à l'autre mais on reste dans cette même enveloppe fermée du nombre de quotas. Non, avec les projets en Somalie, avec les projets en Éthiopie et en Chine, on crée ex nihilo des nouveaux quotas. Ces quotas ne sont pas prévus au départ dans la réduction de moins 8% par rapport à 2020. On crée de rien des nouveaux quotas qui arrivent sur le marché. Et donc, ça influence le marché, il y a plus d'offres, et donc ça fait descendre le prix, mais surtout, cette fameuse quantité fixe n'est plus si fixe que ça. De même, le fait d'ouvrir le marché à d'autres secteurs, à d'autres états, et à d'autres, finalement, à d'autres logiques et tout, rend aussi cette quantité fixe, plus si fixe, et excessivement malléable. Et enfin, bon, je l'ai marqué presque pour rappel, mais je ne sais pas si je peux dire que ça a une influence énorme, mais pourquoi pas, peut-être que si les bourses sont un petit peu moins difficiles d'accès qu'actuellement, aussi les quotas retirés par les particuliers, les ONG, jouent aussi sur ce fameuse quantité que l'on croyait fixe et qui ne l'est plus si fort. Si bien que le marché, qui au départ était uniquement prévu comme un simple lieu d'exécution de cette politique, devient un mode d'arbitrage global entre les préférences des parties prenantes, déterminant, c'est le marché, donc maintenant, qui détermine en dernière instance le seuil de pollution acceptable. Donc vous voyez comment, quel mouvement il y a eu, marché lieu d'exécution, finalement marché maintenant arbitrage. Et j'en arrive à ma conclusion générale, qui tiendra en trois points. Plan interne, plan externe et la méthode. En plan interne, il y a une évolution dans la manière de produire le droit européen. Nous sommes loin aujourd'hui de la méthode communautaire classique, bien connue depuis le traité de Rome. On voit que cette méthode communautaire classique, dans cette politique, elle ne permet plus d'expliquer exactement comment les différentes instances politiques se sont comportées, la manière dont on envisage le droit européen. On a des nouvelles caractéristiques. Ici, j'en ai identifié quatre. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps. La première, c'est d'abord le rôle du législateur. Maintenant, c'est un rôle de législation par objectif. Le Parlement et le Conseil, ils sont mis d'accord sur un pourcentage. Finalement, ce pourcentage, ils le tenaient du protocole de Kyoto, on est bien d'accord, mais finalement, la phase législative s'est arrêtée assez rapidement. Elle a dit, il faut descendre de moins 8% et on crée des quotas. Donc, on voit bien que c'est uniquement l'essentiel, l'objectif qui a été important pour la phase parlementaire. Et cette législation, elle délègue. Elle délègue aux stakeholders, aux parties prenantes, elle délègue à 12 000 entreprises le soin de mettre en œuvre cette politique de lutte contre le réchauffement climatique. Elle le délègue à 12 000 entreprises et elle dit, débrouillez-vous pour un marché. Et vous faites un marché entre vous. Laissant finalement les entreprises privées, laissant le marché s'emparer de la chose. Et on a vu la création de 6 bourses qui, maintenant, s'occupent de faire vivre ce marché européen du carbone. Et donc, on peut voir quand même une délégation qui est importante, qui est de plus en plus courante en droit européen. Ce qui existe là dans cette politique européenne se retrouve dans d'autres politiques européennes. C'est un mouvement actuellement qui consiste donc à déléguer un maximum à des organismes privés ou semi-privés ici les entreprises et les bourses. On peut voir aussi que nous sommes loin du Code civil avec sa loi générale abstraite et intemporelle. On est ici rempli de sunset clauses, on a des périodes d'essai, on a des directives qui sont en évolution permanente, on crée des périodes ad hoc d'essai pour voir comment ça fonctionne. Donc on est loin de cette logique de la loi qui veut durer pour l'éternité. Non, que du contraire, on y va par à coups, à tâtonnement. On voit ce que les marchés veulent. En fonction des demandes de marché, on refait une directive qui va plus dans tel ou tel sens. Et donc, ça a été particulièrement frappant, comme je l'ai dit, pour la période d'essai. Pour l'allocation initiale, puisque l'allocation initiale, elle était au départ gratuite, et on est passé en quelques années, en 4-5 ans, à une vente aux enchères. C'est d'une rapidité énorme pour un point crucial. Et donc, l'évolution permanente. Et les sanctions, ben, les sanctions, c'est vrai que dans la directive, on prévoit des sanctions de 40 euros ou de 100 euros. Mais la sanction, elle vient surtout du marché. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise bénéficiant des quotas et que le cours s'écroule ou le cours devient très très haut, eh bien c'est sans doute ça qui va vraiment être une sanction pour vous et pour le trésor de votre entreprise. Je voulais également attirer votre attention sur le rôle de l'autorité publique. Beaucoup de gens considèrent que le marché européen du carbone, c'est une logique néolibérale. C'est une logique néolibérale au sens, c'est vrai, où c'est finalement le marché qui va régler une politique environnementale. Et donc, quand même, c'est une logique néolibérale d'essayer de mettre des logiques de marché dans des secteurs qui, a priori, ne répondent pas à une logique de marché, ou ne sont pas faits pour une logique de marché. Et donc, en ça, c'est vrai qu'il y a une logique. Mais regardez combien l'autorité publique, elle est présente, voire omniprésente. L'autorité publique, elle doit tenir les registres, elle doit créer les marchés, elle doit sélectionner les 12 000 entreprises, elle doit faire un contrôle, elle est là pour les sanctions, elle accrédite les organismes qui vont vérifier que les entreprises ont bien remis les quotas. C'est-à-dire que, oui, c'est une logique néolibérale en ce qu'il y a le marché qui est au cœur du système. Mais l'autorité publique est loin d'avoir disparu. À mon avis, elle est omniprésente dans ce cas-ci. Mais son rôle a changé. L'autorité publique, elle garde un petit côté traditionnel, mais elle est devenue de plus en plus une entraîneuse. Elle est passée du rôle d'arbitre à celui d'entraîneur. C'est-à-dire qu'avant, l'autorité publique, elle disait « tu as bien fait, tu as mal fait, si tu as mal fait, je te mets une amende ». Là, pas du tout. On voit la commission, elle se débat pour soutenir le cours, elle essaye de rectifier sa réglementation pour que le cours ne devienne pas trop bas. Elle fait des papiers interprétatifs pour essayer que cette politique fonctionne. Elle essaye de négocier avec d'autres marchés la fongibilité. C'est-à-dire qu'on a vraiment une espèce de coach. D'entraîneur, c'est comme ça que je le ressens, comme autorité publique. Enfin, je termine, et j'ai évidemment été trop long, sur le plan externe, on peut voir quand même que l'Union européenne c'est depuis le départ, depuis 2003, a une volonté d'expansion, veut exporter son modèle. Elle veut faire du marché européen du carbone le marché mondial du carbone. Et en ça, il y a une expression bien connue dont la maternité ou la paternité revient à Madame Delmas Marty, c'est que l'Union comme laboratoire de droit global, c'est l'idée que l'Union européenne, ben voilà, elle fait un système en interne, les spécificités de l'Union européenne sont telles que c'est vrai que les solutions proposées par l'Union européenne peuvent séduire un certain nombre d'autres acteurs internationaux, et donc elle essaie un petit peu de vendre, en tout cas elle propose ou elle met tout en place pour que le système européen soit le système global, entendu, non pas le système de droit international, c'est-à-dire que vous avez bien vu que l'Union européenne va négocier avec les États, bien sûr, mais elle va aussi essayer de négocier avec la Californie, elle va aussi essayer de négocier avec des acteurs infra-étatiques, avec d'autres bourses, pour essayer que, de facto, sa solution soit celle qui soit globale. Alors, sur le plan de la méthode, je pense que dans un cours de théorie du droit, il n'est pas inutile de dire que si on s'en était limité à la lecture des trois directives, eh bien, on aurait raté une grande partie de cette politique, puisque tout l'aspect bourse, par exemple, tout l'aspect des intermédiaires financiers nous aurait complètement échappé. Et donc, il ne faut jamais hésiter, en tant que juriste, et à un petit peu lever la tête et regarder ce que les autres disciplines qui nous sont connexes font. Et on a souvent des surprises, et dans ce cas-ci, cet exemple est particulièrement frappant. Je vous remercie de votre attention, et je me tiens à votre disposition pour les questions.
J'invite les 5 ou 6 personnes qui sont en fait les discutants, les personnes qui connaissent aussi bien le sujet que moi, à poser les premières questions, à éventuellement faire un débat entre eux. Ce que je veux dire, c'est que je me tiens à votre disposition, mais c'est donc un petit peu, la main est à ces 5 personnes, et donc je vous invite à prendre la parole.